A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Galère. C'est l'émission du 21 octobre et vous êtes avec Françoise et Odile. Quelques mots d'abord pour parler de livres qui sont, me semble, recommandables. D'abord, Natacha Appana, que vous connaissez déjà car on vous a lu Tropique de la violence. Elle a écrit Rien ne t'appartient tout récemment chez Gallimard, 160 pages. Enfin, avec elle, une autre femme à l'honneur, Amanda Devi, Le rire des déesses, et c'est chez Grasset, et il y a 240 pages. Après ces informations, on vous annonce le livre que nous lisons de Philippe Blanchon, Althusser, c'est le titre principal, hein, Révolution, libération politique, philosophique, théologique. Rien que ça. Qu'est-ce qu'on connaissait de Althusser? Moi, je ne connaissais pas grand-chose, sinon que c'était le philosophe de la coupure épistémologique. Et en relisant ce livre, il m'est revenu des souvenirs de cette époque, les années 60-70, où j'ai parlé avec des gens qui, je me suis dit, mais ils étaient influencés par Althusser, ils ne le disaient pas. Et je m'en apercevais pas jusqu'au jour où quelqu'un de la CFDT, qui à l'époque était gauchiste, disent quand j'entends parler de coupure épistémologique, donc c'est la trouvaille principale d'Althusser, je sors mon revolver. Je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait cette grande colère. La coupure épistémologique, c'est la suite de la lecture qu'il a fait de Marx, on en reparlera hein, dans le courant de l'émission. Il y a deux Marx selon lui, le premier Marx des premiers écrits, qui est humaniste, et puis avec le Capital, tout tourne, et même quelques ouvrages un peu avant, à partir de l'année 78, tout tourne, et c'est la science qui domine, une science très rigoureuse qu'on peut donc contester. Et alors une autre affaire qui m'a été révélée par le livre, c'est que Althusser, il a sans cesse fréquentait des amis qui n'étaient pas du tout du goût de ses amis communistes, qui étaient très sectaires, et il a toujours été, alors selon M. Blanchon, il aurait été influencé même dans sa pensée. Alors faire d'Althusser un chrétien, que Dieu me pardonne si je puis dire, que mes amis communistes qui sont restés staliniens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore, hein, me pardonnent. Parce que c'est le stalinisme qui a dégoûté Althusser. Et sans plus tarder, quelques mots sur l'auteur.
Philippe Blanchon, né en novembre 1967. En 2005, il publie La nuit jetée chez Compact. Depuis, il est l'auteur d'un ensemble poétique, Moté, chez Lanerte en 2015. Il a signé des essais sur James Joyce ou Vincent Van Gogh chez Golias. Et de nombreux articles et traductions en revue, notamment dans CCP, l'Infini ou la NRF. Il est le traducteur d'ouvrages de James Joyce, Conrad Aiken, E.E. Cummings ou Karl Rakosi. Dernier recueil paru, Variations de Jean, La Barque 2018, dernier livre, Gertrude Stein, Gallimard 2020.
Voilà, deux noms sont à retenir. Golias et Gallimard. Gallimard, comme nous disons, c'est un éditeur qui a mis les livres très bien écrits, très bien faits. On va voir s'il tient la route de celui dont nous allons vous parler. Et puis, Golias, la revue et le journal, parce qu'ils ont maintenant non seulement un journal bimestriel, mais un journal hebdomadaire et une revue, et puis comme vous le voyez, une maison d'édition. On l'appelle le canard enchaîné de l'Église catholique. Et à la radio, interviewé à Radio Galère, il a dit que oui, ça lui allait très bien d'être appelé de cette façon-là. Et en attendant, il publie donc Althusser, Libération politique, philosophique et théologique, rien que ça. Et écoutons maintenant le prologue qu'il écrit, dans lequel on peut dire qu'il résume l'essentiel de son livre, mais qui n'est pas de lui, il cite un auteur.
As-tu vu les histoires entre le Vatican et les théologiens brésiliens de la Libération qui disent s'inspirer d'Althusser et de Gramsci? Lettre de Louis Althusser à Fernanda Navarro, amie et traductrice mexicaine du philosophe, 18 septembre 1984. En général, tu es en retard sur le réel. Il peut arriver qu'en certaines occasions, les poètes, les musiciens, les philosophes utopistes, par exemple, soient en avance sur le réel. Louis Althusser, avril 1980, lors d'un entretien filmé à Rome.
À retenir l'emploi du « tu ». Ce « tu » ne s'adresse pas à sa correspondante, mais le « tu » est équivalent de « on », en général les hommes et les femmes.
À l'heure d'un délétère retour de la réaction bourgeoise, réaction instrumentalisant le religieux, il est urgent de rappeler le parcours d'un homme, Althusser, 1918-1990, qui a suivi l'évolution suivante. Foi apolitique, acceptant des amitiés royalistes sans adhésion de sa part, à la découverte de courants chrétiens soucieux de la cause sociale. Ces courants, émanation de dominicains, de franciscains et de jésuites, ont joué un rôle déterminant dans la conscientisation d'une partie des masses. Les prêtres ouvriers en seront une des conséquences, mais aussi, plus tard, la dénonciation de la torture en Algérie et la lutte contre la colonisation. Dans l'immédiate après-guerre, se pose aussi la question de l'alliance avec les communistes, ce qui entraînera de multiples adhésions au PCF. Ce fut le cas d'Althusser, comme chacun sait, notamment au sein des membres de la classe populaire ayant milité dans des associations chrétiennes. Il ne s'agit pas cependant de faire accroire à une sorte de retour d'Althusser à sa foi initiale. Ce rapport fut complexe, comme tout ce qui le concerne, mais plutôt de revoir son parcours et les échos qu'ils ont provoqués, notamment en Amérique latine et auprès des théologiens de la libération, ce dont il se félicitait. Comment la religion peut cesser d'être un opium, un outil d'oppression et d'aliénation par les dévoiements des idéologues réactionnaires et fascisants, mais au contraire être un outil de libération, de lutte et d'émancipation. Le travail philosophique de Louis Althusser demeure un des plus problématiques de l'après-guerre français. Problématique du fait de son adhésion au PCF, soutien inconditionnel de Moscou, de son gauchisme d'après 68, tout en restant membre du PCF, et de ses nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques, avec électrochocs et traitements chimiques lourds. Sans omettre la terrible nuit de 1980, où il tua son épouse Hélène lors d'un épisode délirant. Il ne s'agit pas de revenir par le détail et de façon exhaustive sur l'évolution d'une pensée combattante, malgré cette biographie douloureuse jusqu'au drame irréparable, que l'on ne peut que reconnaître comme singulière, mais plutôt de donner un éclairage sur les ultimes prises de position du philosophe après avoir donné les éléments antérieurs les plus déterminants de cette vie et de cette œuvre. Celui que son ami Jacques Derrida n'hésita pas à rapprocher d'Antonin Artaud et aussi de Pascal dans son discours lors de ses funérailles, tout en saluant l'interlocuteur chaleureux et rigoureux, y compris lors de désaccords. De Derrida, justement, nous reprendrons sa thèse de spectre de Marx afin d'évoquer les spectres d'Althusser.
Voilà comment il présente son projet. Et on voit qu'il se méfie de ceux qui seraient récupérateurs et qui voudraient réinstaller Althusser dans le giron du catholicisme. Il proteste, mais en même temps, il manifeste bien qu'il est libre et que cette liberté, eh bien, si, il ne la trouve pas dans l'Église, il ne la trouve pas non plus dans les communistes. Et il y aura des années de lutte contre le bureaucratisme, c'est ce qu'il reproche au Parti communiste, et surtout, le bureaucratisme, c'est dans la structure et surtout une pensée dont il s'applique à découvrir l'incohérence. Il veut montrer au contraire la cohérence d'Althusser. Et en conclusion, il dit que il a trouvé qu'en définitive, il était plus proche de Rosa Luxembourg que de Lénine. Et par exemple, il salue Bakounine dans un interview et il reproche la façon dont les communistes l'ont traité, l'anarchiste Bakounine, si vous ne le saviez pas. Et là, il affirme aussi qu'il trouve très plus intéressant dans la lutte contre toute forme de domination des personnes qui sont des artistes. Il a écrit de nombreux articles sur Van Gogh et il préfère ces artistes à ceux qu'il appelle de froids théologiens. Voilà comment il présente l'ensemble de l'œuvre d'Althusser. Cohérence, bien qu'on ait dit qu'il ne l'était pas, et une grande liberté d'esprit, puisqu'il fréquente à la fois des cathos et des communistes, mais une fermeté quand même pour rester au Parti communiste. Et jusqu'au bout, d'ailleurs, il ne voudra pas, comme il est féru d'égalité, il ne voudra pas être traité comme un cadre, il n'a jamais été, et il distribue des tracts, il colle des affiches, comme tout militant de base. Et maintenant, voyons un peu historiquement comment se passent les choses. Le plan du livre est chronologique, hein, sauf un dernier chapitre consacré à la théologie de la libération. Et voyons comment est le jeune Althusser avec le catholicisme et comment il est à 20 ans, page 9.
Le jeune homme est littéralement remarquable. Il est de grande taille et sa tête est dotée d'un front particulièrement haut. Le regard est bleu et pénétrant. Le sourire semble hésiter entre douceur et ironie. Autour de lui, certains condisciples et professeurs à Normale supérieure de Lyon s'attachent spontanément à ce jeune élève. Il n'a pas 20 ans, il se dégage de lui force et vulnérabilité simultanées. Son verbe est sûr, il est brillant sans jamais être démonstratif, moins encore agressif, mais plutôt discret et attentif quand il ne prend pas la parole d'une voix douce, sourde, quoique nerveuse et contrôlée. Deux sentiments très souvent vont cohabiter à son endroit. Admiration et désir de prendre soin de lui. Ces sentiments sont garants de fidélité et elles seront nombreuses les amitiés durables, certaines nées lors de son passage par Cagnes, dans ce destin tout de crise et de rupture. Le plaisir qu'il prend au partage, outre son intelligence évidente, provoque des liens tout à fait singuliers avec quelques enseignants. Tous catholiques, précisons-le. Citons d'abord Jean Guiton, conservateur qui se rapproche de Jean XIII et Paul VI, et qui se compromit avec Vichy, et les progressistes Jean Lacroix, qui collabora à la revue Esprit d'Emmanuel Mounier, et Joseph Ours, gallican et farouche républicain. C'est ce dernier qui lui donnera le goût de l'histoire, qui l'enseigne, le goût et la passion. Ce ne sont pas seulement ses bons résultats qui attirent l'attention, c'est aussi son appétence pour les échanges, sa curiosité, sans absence de parti pris. Et il ne fait nul doute que la personnalité complexe de l'étudiant, sa fragilité, font le reste.
Voilà, ce qui est aussi très important pour lui et qui va contribuer à cette fragilité, c'est qu'il a été arrêté en 1941 et il a passé 5 ans au Stalag. Et c'est l'occasion pour l'auteur de comparer avec Jean-Paul Sartre. On a beaucoup parlé de ces 5 mois au Stalag, mais 5 ans, 5 mois, c'est pas comparable. Et il semble qu'à Tusser, on ait eu des traces beaucoup plus importantes. Et quand il sort du Stalag, il est angoissé pour l'avenir. Il pense que ses études sont interrompues pour toujours, qu'il ne va pas y arriver. Il a donc 26 ans. Et l'auteur remarque qu'il ne connaît pas la vie sexuelle, que sa maturité sexuelle est arrivée, mais qu'elle n'a jamais pu être mise en œuvre. Et il a aussi beaucoup de camarades qui sont très, très proches de lui et qui l'aiment beaucoup. Avant de revenir sur sa pensée, eh bien, voyons un peu le plan du livre. Hein, parce qu'il y a un plan. Et ça montre comment l'auteur s'applique, tout en faisant chronologiquement sa biographie, à... excusez-moi, je cherche ma fiche avec mon plan. Oui, voilà. Premièrement, le futur communiste en recherche avec les catholiques. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et... deuxièmement, le lecteur de Marx, alors c'est là qu'on va trouver la fameuse coupure épistémologique. Et enfin, ce qu'il appelle la nuit obscure, qui est éclairée par de grands philosophes, Spinoza. Il aime beaucoup Machiavel et Kant. Voilà, ce sont ses derniers compagnons de vie. Et enfin, on verra que son champ d'action principal, ça a été l'Amérique latine et la libération. Il est temps de reprendre un peu de lecture.
Page 18.
Non, page 18, ce qu'il pense. Et il faudrait dire un mot aussi, mais je le dirai tout à l'heure, de ce qu'était la culture et la littérature et la philosophie à l'époque où il sort du Stalag.
Il écrit « L'ouvrier n'est pas prolétaire par ce qui va lui arriver demain, mais par ce qui lui advient à chaque instant du jour. » Plus loin. « La peur est une captivité sans évasion », il précise. Autrement dit, la servitude peut être convertie en liberté par la réflexion sur son propre contenu et le dépassement de son contenu par l'action. Il n'y a pas de libération de la peur par la conscience de la peur. Pour dénoncer ce nouveau climat intellectuel, il met sur le même plan Camus et Mauriac, voient en eux des dupes qui nous dupent. Car pour lui, cette fausse fin du monde est peuplée de faux prophètes qui annoncent de faux Christ et désigne l'événement comme l'avènement. Un péril possible ne doit pas occulter un péril de fait. Il voit même une certaine honte derrière ces prêches humanistes sans enjeu, qui condamnent l'humanité tout entière à la mauvaise conscience. Tout est affaire d'hommes, de politiques menées par des hommes. Il nous faut tout de même sortir de cette honte. Nous ne sommes pas des chiens, et ce ne sont pas des chiens qui ont arraché au fascisme notre liberté à tous. Refus rigoureux d'une conscience morale, prenant le relais de la mauvaise conscience, hegelienne. Pour Althusser, il faut se défaire des mythes de la peur et lutter pour le socialisme. Hegel rejoint Marx dans ses lignes. Le destin est la conscience de soi comme d'un ennemi, disait Hegel. Le Hegel étudiant conscience, raison, esprit, retrouve Marx. Mais surtout, une fois encore, un ennemi est responsable, ce n'est ni la fatalité, ni moins encore l'espèce humaine essentialisée. La subjectivité nous est nécessaire pour la connaissance de la totalité. Et comme sujet historique, nous nous devons de savoir contre qui nous avons à nous battre, la classe dominante. Pour une émancipation réelle, pour être homme véritablement, pour que tout homme le devienne.
Voilà.
C'est dans un tel contexte qu'il fait la rencontre d'Hélène Rittmann, que chacun connaît sous son principal nom de résistante, Hélène Le Gossien. Née en 1910, elle est de 8 ans l'aînée d'Althusser. Depuis 1936, elle a milité auprès des communistes et des brigades internationales. Elle a été l'assistante de Jean Renoir, assistante d'édition de Trois Collines, et fut ainsi en relation avec Éluard, Aragon, Picasso et bien d'autres. Engagée dans la résistance, elle a porté différents noms. Mais voilà, elle fut exclue de tout lien avec le parti en 1943 pour divers motifs, du soupçon de collaboration avec le général Service à l'accusation d'excès de zèle contre les collaborateurs. Elle en fut dévastée. C'est en décembre 1946 qu'elle rencontre Althusser. Son biographe, Yann Moulier-Boutang, émettra l'hypothèse d'une des raisons de l'entrée au PCF de notre jeune normalien, maintenant parisien, fut de tenter de laver l'honneur d'Hélène et de permettre sa réintégration. Il parle même d'un acte de chevalerie. Quoi qu'il en soit, si tel fut le cas, ce fut vain. De démarche en démarche, jusqu'à des procédures mimant les procédés kafkaïens des procès staliniens, Hélène ne sera jamais réintégrée. L'affaire est close en avril 1950, paradoxe tout stalinien. Elle n'est reconnue coupable de rien, mais interdite au PC. La même année, en juin, Althusser, lui-même, doit faire face à une cellule accusatrice au sein de l'école. Un épisode dépressif s'en suivra.
Voilà ce qui se passe pour Althusser. Vous remarquez que sa condamnation du Parti communiste coïncide avec la rencontre d'Hélène. Dans un même paragraphe, l'auteur met dans le même sac la rencontre amoureuse et la rencontre avec la vérité sur le PCF. Il faut dire un mot de la floraison des pensées françaises à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a en ce qui concerne la presse en 1945? Eh bien, il y a, j'ai appris ça dans un témoignage chrétien, c'est un des premiers journaux témoignages chrétiens, chrétien de gauche et en lutte contre le fascisme. Ensuite, il y a le journal Combat et puis les lettres françaises avec Jean Paulhan comme directeur. Et les lettres françaises, elles sont plus ouvertes, plus littéraires, et les autres étant davantage marquées par le sceau du communisme. Et on voit maintenant ce qu'il pense et ce qu'il défend. Une citation de lui, c'est que pour cette alliance de la rose et du réséda, comme dit la chanson, ou le poème plutôt, et que l'on soit croyant ou athée, le fascisme le fascisme, j'arrive pas à me relire, mais ensemble les croyants ou ceux qui ne sont pas croyants ou qui croient au communisme, hein, et c'est le fascisme qu'il faut attaquer, dit-il, si on est un homme de justice et de liberté, et si on se sent un besoin intensif, un besoin je cherche le mot, de passer à l'action, un besoin irrépressible de passer à l'action. Et c'est dans ce contexte-là que se développe la pensée de Althusser. Mais c'est pas pour autant qu'il se sépare de ses amis. Page 26, on revient à la coupure épistémologique. J'ai oublié quelque chose, page 23.
Page 23, le lecteur de Marx exégète et critique. Ouais. Va, suis ton chemin et laisse dire les gens. Devise attribuée à Dante, citée par Marx dans Le Capital, inspirée du vers « Viens derrière moi et laisse dire les gens ». Mot de Virgile à Dante dans Le Purgatoire, chant 5. Des liens vont persister, seraient-ils épistolaires, amicaux ou polémiques, entre Althusser, marxiste convaincu et des croyants. Un des textes importants de ses écrits philosophiques et politiques est une lettre à Jean Lacroix, commencée toute fin 1949 et se développant en réaction à la publication de « Marxisme, existentialisme et personnalisme » de son ancien professeur en 1950. Ce texte, inédit jusqu'en 1994, incarne les aveuglements du primo-militant. Althusser tombe dans le travers de nombre de ses contemporains. En défendant l'URSS, il croit attaquer efficacement l'hégémonie idéologique américaine et tous les fascismes. Certains des plus critiques envers le stalinisme, comme Henri Lefebvre, ont commis cette erreur. Ce fut aussi le cas de Sartre après l'affaire Henri Martin. Le jeune militant communiste se voit condamné à 5 ans de prison pour avoir distribué des tracts contre la guerre d'Indochine en 1950. Et l'affaire fallacieuse des pigeons voyageurs, mise en place par les gaullistes pour rendre illégal le parti. C'est la contrainte du moment, son injonction. Choisissez votre camp. Les marxistes sincères se sentent alors acculés et il serait malhonnête de les confondre avec les cyniques membres des appareils et les pseudo-intellectuels qui ont défendu inlassablement et publiquement l'URSS comme des sectateurs fanatiques et constants, refusant même tout contact hors du parti.
C'est un sectarisme invraisemblable. On a peine à l'imaginer. Maintenant, on parle tellement de diversité. Et c'est un souvenir d'enfance qui me revient. Il y avait des grandes affiches dans mon quartier, qui n'était pas un quartier du centre-ville, un quartier semi-populaire. Libérez Henri Martin. Vive les affichages. Alors, tu me faisais un signe, tu voulais qu'on mette un peu de musique. Non, pas encore.
On peut.
Alors, allons-y. Althusser,
Libération philosophique, politique et théologique chez Golias par Philippe Blanchon.
Oui. Nous continuons la lecture de Marx. C'est le parler de Althusser, lecteur de Marx, c'est parler de l'essentiel et notamment de son livre « Lecture du Capital ». Et c'est ainsi qu'on revient à ce thème de la coupure épistémologique.
Il devient de plus en plus clair pour Althusser qu'il y a deux Marx, qu'une coupure s'opère dans son œuvre à partir de 1847. Tous ses lecteurs ont bien suivi l'évolution de la pensée marxiste, constaté une modification profonde s'opérant après les années 45-46. Pour certains, les deux périodes s'articulent, dialoguent entre elles, tandis que d'autres s'attachent prioritairement au premier Marx. Le jeune Marx passionne aussi Althusser. Il l'étudie scrupuleusement afin de montrer comment dialectiquement une pensée se forme. Mais d'après lui, le prendre exclusivement en compte, c'est alimenter l'idéalisme réformiste. Dès lors, jamais avant Althusser, un choix aussi tranché, sans mauvais jeu de mots, ne s'était exprimé. Il parle de coupure, la qualifie épistémologique, et de Marx scientifique éclipse le précédent. Et le Marx scientifique éclipse le précédent.
Voilà, la coupure.
Dans ses écrits sur Marx, publiés alors, Althusser retire des textes en référant des éléments théoriques pour avancer dans son affirmation d'un strict matérialisme, seul rempart à l'idéalisme, ne servant que la bourgeoisie et la réaction. S'il reprend des écrits de Lénine, il ne cite quasiment jamais Staline, on s'en serait douté. Il cite davantage Mao Tse-tung, alors que ce dernier est plus que suspect, rappelons-le, au PCF. C'est la question de la contradiction, énoncée par le Chinois qui occupe Althusser, thèse selon laquelle tout est contradiction, et que c'est en allant au bout de cette dernière que l'on pourra la dépasser et échapper à l'idéalisme. Il anticipe ainsi sur les mouvements qui viendront 10 ans plus tard, ouvertement marxistes-léninistes, qu'ils soient proches du maoïsme ou non, dans l'action et la théorie.
Voilà comment il clarifie pas mal la pensée d'Althusser et celle de ses continuateurs. Souvent on se dit, il y a tellement de groupes d'extrême gauche, j'y comprends rien. Et bien là, on voit nettement que la Chine d'abord, Mao Tse-tung se réclamait de Lénine. Et il faut ajouter quelque chose, c'est que cette notion de contradiction, on en a un exemple bien précis, bien connu, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Alors l'esclave prend le pas sur le maître, mais alors après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la question se pose et que se sont développés des détracteurs de Marx ou ses soutiens, pas inconditionnels, ses soutiens critiques, comme celui d'Althusser. Je me souviens qu'on discutait avec des amis et ils disaient, ce qui m'embête dans le marxisme, c'est son historicisme absolu. Et sur le coup, je n'avais pas compris, je me disais, ah oui, il y a un historicisme absolu. Et en fait, il était althusserien, donc c'est en fonction de la lecture d'Althusser de Marx qui disait qu'il y avait un matérialisme absolu. J'aime mieux les réflexions de Walter Benjamin où il montre comment un personnage s'introduit dans le système et que le témoin bouge et il est entraîné vers l'avenir tout en regardant vers le passé. C'est pas la même façon de voir le déroulement du temps. Autre trouvaille très importante aussi de Althusser, après avoir vu que la contradiction se trouvait gênée par sa vision du monde, que la contradiction gênait sa vision du monde parce qu'elle mettait à bas le concept d'aliénation si cher au premier Marx. Si les choses sont déterminées par la structure sociale et le moment du temps où on arrive avec ce temps long, eh bien, elles ne sont pas déterminées de l'intérieur de quelqu'un qui est un personnage aliéné, mais il reviendra cependant sur cette notion d'aliénation parce qu'il va la retrouver avec les théologiens de la libération qui se sont à ce moment-là élevés contre cette notion, ainsi que bien là, donc page 29, Galère, Althusser,
Libération philosophique, politique et théologique chez Golias par Philippe Blanchon.
Ouais. Nous continuons la lecture de Marx. C'est le parler de Althusser, lecteur de Marx, c'est parler de l'essentiel et notamment de son livre Lecture du Capital. Et c'est ainsi qu'on revient à ce thème de la coupure épistémologique.
Il devient de plus en plus clair pour Althusser qu'il y a deux Marx, qu'une coupure s'opère dans son œuvre à partir de 1847. Tous ses lecteurs ont bien suivi l'évolution de la pensée marxiste, constaté une modification profonde s'opérant après les années 45-46. Pour certains, les deux périodes s'articulent, dialoguent entre elles, tandis que d'autres s'attachent prioritairement au premier Marx. Le jeune Marx passionne aussi Althusser. Il l'étudie scrupuleusement afin de montrer comment dialectiquement une pensée se forme. Mais d'après lui, le prendre exclusivement en compte, c'est alimenter l'idéalisme réformiste. Dès lors, jamais avant Althusser, un choix aussi tranché, sans mauvais jeu de mots, ne s'était exprimé. Il parle de coupure, la qualifie épistémologique, et de Marx scientifique éclipse le précédent.
Voilà,
dans ses écrits sur Marx, publiés alors, Althusser retire des textes en référant des éléments théoriques pour avancer dans son affirmation d'un strict matérialisme, seul rempart à l'idéalisme, ne servant que la bourgeoisie et la réaction. S'il reprend des écrits de Lénine, il ne cite quasiment jamais Staline, on s'en serait douté. Il cite davantage Mao Tse-tung, alors que ce dernier est plus que suspect, rappelons-le, au PCF. C'est la question de la contradiction, énoncée par le Chinois qui occupe Althusser, thèse selon laquelle tout est contradiction, et que c'est en allant au bout de cette dernière que l'on pourra la dépasser et échapper à l'idéalisme. Il anticipe ainsi sur les mouvements qui viendront 10 ans plus tard, ouvertement marxistes-léninistes, qu'ils soient proches du maoïsme ou non, dans l'action et la théorie.
Voilà comment il clarifie pas mal la pensée d'Althusser et celle de ses continuateurs. Souvent on se dit, il y a tellement de groupes d'extrême gauche, j'y comprends rien. Et bien là, on voit nettement que la Chine d'abord, Mao Tse-tung se réclamait de Lénine. Et il faut ajouter quelque chose, c'est que cette notion de contradiction, on en a un exemple bien précis et bien connu, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Alors l'esclave prend le pas sur le maître, mais alors après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que la question se pose et que se sont développés des détracteurs de Marx ou ses soutiens. Ou ses soutiens, pas inconditionnels, ses soutiens critiques, comme celui d'Althusser. Je me souviens qu'on discutait avec des amis et ils disaient, ce qui m'embête dans le marxisme, c'est son historicisme absolu. Et sur le coup, je n'avais pas compris, je me disais, ah oui, il y a un historicisme absolu. Et en fait, il était althusserien, donc c'est en fonction de la lecture d'Althusser de Marx qui disait qu'il y avait un matérialisme absolu, j'aime mieux les réflexions de Walter Benjamin où il montre comment un personnage s'introduit dans le système et que le témoin bouge et il est entraîné vers l'avenir tout en regardant vers le passé. C'est pas la même façon de voir le déroulement du temps. Autre trouvaille très importante aussi de Althusser, après avoir vu que la contradiction se trouvait gênée par sa vision du monde, non, je veux dire que la contradiction gênait sa vision du monde parce que elle mettait à bas le concept d'aliénation si cher au premier Marx. Si les choses sont déterminées par la structure sociale et le moment du temps où on arrive avec ce temps long, eh bien, elles ne sont pas déterminées de l'intérieur de quelqu'un qui est un personnage aliéné. Mais il reviendra cependant sur cette notion d'aliénation parce qu'il va la retrouver avec les théologiens de la libération qui se sont à ce moment-là élevés contre cette notion ainsi que le bien a. Donc, page 29, on voit comment ça se passe.
Non. Si la question de la contradiction va occuper son esprit, c'est qu'il y en a une de taille incluse dans son concept de coupure. S'il y a refus de la fin de l'histoire, en même temps, il y a une eschatologie implicite derrière ce nouveau point zéro. Il en fut ainsi avec l'avènement christique. Pour Althusser, via la science marxiste, l'économique ne peut plus se dissocier du politique. La libération du prolétariat de la libération de tous positionne déjà de nombreux surréalistes. La contradiction est là. Le point à atteindre est la disparition de l'idéologie par un travail idéologique, de la philosophie par un travail philosophique. À partir de ce point zéro, il s'agit de provoquer la fin de l'idéologie bourgeoise, de son soi-disant humanisme. Mais à quelle fin ? Pour un humanisme authentique, afin de relancer l'histoire en ayant en tête une fin nouvelle, le socialisme, remettre en quelque sorte l'histoire dans ses gonds, là, nous nous devons d'évoquer Jacques Derrida, auteur des Spectres de Marx. Derrida reprend ces mots dans Hamlet. Le temps est hors de ses gonds. Voici les vers entiers. Le temps est sorti de ses gonds, ô calamité, qui m'a fait naître pour les redresser. Hamlet aura en charge cette remise du temps, de l'histoire, dans ses gonds, et Marx et les marxistes ont même mission surhumaine. Althusser est un des derniers Hamlet en cette affaire. Derrida remit en cause cette coupure, si chère à notre auteur, mais depuis qu'on le veuille ou non, le spectre d'Althusser ne peut nous lâcher. Dans toute approche de Marx, nous devons faire avec lui, serait-ce pour discuter certaines de ses positions. Les théologiens de la libération ne s'y tromperont pas. Penser Marx sans tenir compte des positions althusseriennes paraît des plus hasardeux, car outre la question de la coupure, le philosophe va entreprendre un travail critique de Marx, reprendre la méthode de Marx afin de critiquer Marx. Quelles en sont les impensées, les failles et les limites ? Comment les penser, les combler, les dépasser ? Nous verrons plus loin ce qu'Althusser va mettre au jour.
On voit le projet de Philippe Clochon. S'il parle d'Althusser, c'est parce qu'il s'agit de revenir à Marx. Et dans une lettre, il écrit un beau poème et au sujet d'Althusser.
Les dieux sont lourds pourtant, le ciel est frais comme une barbe. Moi, parasé, peu dormi aux aubes, la tête pleine, le nez plein, la gorge pleine, grippe, je suis allé causer dans les micros de Marx. J'ai parlé de la science toute nue. J'ai dit, ils croyaient tous qu'elle était nue, Marx. Non, c'était un homme qui savait déshabiller une science qui savait qu'il fallait sans un répit la protéger de tous les habits jetés sur elle par le monde, qu'il fallait sans cesse lutter, recommencer pour qu'elle reste blanche à l'air libre, la nudité, quelle bataille. J'ai dit qu'il n'y a pas de science nue, comme on dit. Il n'y a pas de Pyrénées où, comme on dit, il y a une enfance. J'ai dit, si vous voulez savoir le matérialisme, écoutez, il n'y a pas de science nue.
C'est quelque chose qui m'avait épaté, je me souviens, quand on avait parlé de la science et qu'on avait dit que non. C'est pour reprendre les mots de Philippe Blanchon, il n'y a pas de science nue. On dit, mais la science, c'est neutre. Et puis ensuite, on voit ce qu'on en fait. Ah, mais non, il paraît qu'il fallait voir ailleurs. Et en effet, maintenant, j'en suis bien persuadé, mais la question, c'est comment y arriver. Althusser, après le sombre épisode de la nuit de 1980, où il a tué sa femme, Hélène, celle qui était militante et qui a été exclue du PC, mais qui a toujours gardé sa carte, mais elle était exclue de toute responsabilité. C'est son témoignage qu'il avait commencé par lui masser le cou et la nuque parce qu'elle disait qu'elle était très fatiguée. Et ensuite, c'est dans sa tête le trou noir, il l'aurait étranglée. Il a été immédiatement envoyé en hôpital psychiatrique et d'ailleurs mécontent parce qu'il aurait voulu ne pas perdre ce fait d'être présent à un procès. Il aurait voulu connaître son procès. Et c'est ce qu'il a dit à ses amis qui se sont dépêchés de le délivrer de cette affaire-là en l'envoyant en hôpital psychiatrique. Quand il en est sorti, le rythme a retrouvé son cercle habituel, séjour en hôpital, mieux, retombé dans ce qu'on a appelé à ce moment-là un processus, bon, j'ai oublié le nom, et qu'on dirait maintenant plutôt que c'était un maniaco-dépressif. Voilà, oui, je crois qu'on disait maniaco-dépressif et qu'on dirait maintenant plutôt bipolaire. Voilà. Et cependant, il fait des recherches, c'est un lecteur non seulement de Marx, il continue ses articles. Il semble qu'on n'ait plus entendu parler de lui. Et il a une vue originale sur Machiavel, sur Démocrite et sur, il aime beaucoup, Spinoza. Et Machiavel, alors là, j'étais aussi, je n'en revenais pas, j'ai lu Le Prince de Machiavel qui aurait été écrit pour César Borgia qui s'apprêtait à prendre le pouvoir dans une des villes italiennes qui se battaient toutes à ce moment-là. L'unité italienne, elle n'était pas faite. Hein. Eh bien, il dit Machiavel, il écrit pour le peuple. Ah, je trouve qu'il écrit pour ceux qui dirigent et il leur apprend à diriger en faisant appliquer leur volonté. Il leur donne des astuces. Eh bien, non, très habilement, Althusser dit et non, il n'y a que le peuple qui sache qui est un tyran. Et c'est au peuple qu'il faut le demander. C'est au peuple. Que pense Machiavel, qui était d'ailleurs d'origine très modeste, quand il écrit Le Prince. Alors, chers auditeurs, chers auditrices, reprenez en format de poche Le Prince de Machiavel pour vérifier ce que je vous dis, mais ça a été ma découverte en lisant Philippe Planchon. Enfin, on va terminer sur ce qui reste et qui est le plus sérieux, c'est son... On voit que celui qui écrit doit être certainement Cato Silgolias probablement, et il dit que l'Amérique latine salue Althusser, et c'est probablement là qu'on va trouver les plus grandes traces de lui après sa mort qui a eu lieu en 90. Et on va terminer le livre par la lecture encore d'un poème.
Tu avais marqué plusieurs extraits avant le poème qui doit être page 64 et on a encore un peu de temps.
Oui.
Donc je vais peut-être lire les extraits que tu avais indiqués, page 37, si tu as quelque chose à dire dessus.
37, oui. J'ai dit un beau poème. Quand j'ai...
Non.
Non.
C'est 67.
Et puis page 29.
29, on l'a lu. On va voir ce que c'est page 37. Dans les premières pages de Lire le Capital, nous lisons « C'est depuis Freud que nous commençons de soupçonner ce qu'écouter, donc ce que parler et se taire veut dire. Ce que ce veut dire du parler et de l'écouter découvre sous l'innocence de la parole et de l'écoute la profondeur assignable d'un second, d'un tout autre discours, le discours de l'inconscient. » Ainsi qu'en soit-il les bévues des économistes qui précèdent Marx, sur lesquels l'allemand s'est penché pour travailler. Ce mot « bévue » reviendra chez Lacan, on le sait, dérivé étymologique de « vue », ce qui n'est pas vu, donc qu'il faut enfin voir comme il faut lire avec une attention aiguë à cet autre discours.
Ah. Il étudie en effet les relations d'Althusser avec Freud, qu'il apprécie mais qu'il critique, avec Marx présenté par Althusser et sa façon aussi de parler de Freud. On en revient à deux grandes découvertes de la fin du 19e siècle. C'est Freud a découvert l'inconscient et Marx a découvert l'exploitation.
Et là, on va citer Gutiérrez.
Alors ça, c'est un grand théologien de la libération qui a publié d'ailleurs un livre qui s'appelle « Théologie de la libération ». C'était parmi les premiers.
Seule une destruction radicale du présent état des choses, une transformation profonde du système de propriété, l'arrivée au pouvoir de la classe exploitée, une révolution sociale, mettront fin à cette dépendance. Seules, elles permettront le passage à une société socialiste, ou tout du moins le rendront possible. Le Christ, inaugurant une nouvelle pratique de la politique, pour citer Althusser, est en accord avec le socialisme. Cela ne fait aucun doute pour ses clercs et l'Église, ne peut être que l'Église des pauvres. Le Christ est mort pour la rémission de tous les péchés. Il n'y a plus à évoquer une fatale vallée de larmes, réduisant les hommes à la résignation. Non, l'humanité doit prendre la Pâque comme un point de départ résolument neuf. S'il n'y a dorénavant nulle faute à racheter, plus rien ne justifie théologiquement la souffrance humaine. Notre passage sur terre n'est pas un passage transitoire en vue du rachat assurant un séjour éternel dans un paradis céleste. Donc, être en cohérence avec le Christ, c'est œuvrer à la libération des hommes d'ici-bas. Il est éminemment politique qui entrave cette libération, doit être combattu. C'est le glaive de l'évangile de saint Matthieu.
Voilà comment est rétabli Gutiérrez dans le combat pour la libération de tous les hommes.
Outre la source évangélique, les théologiens de la libération se réfèrent aussi explicitement à l'Exode. Les Juifs opprimés par les Égyptiens ont gagné leur liberté par l'exil. Ce peuple, nouvellement libre, se dota de ses propres lois. La première d'entre elles reposait sur le rejet catégorique des idoles et des fétiches. Et comment ne pas faire le lien avec les textes de Marx concernant la fétichisation de la marchandise? Dans les lois sur la propriété, on trouve 21 « Tu ne malmèneras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des étrangers en Égypte. » 22 « Vous ne ferez point de tort à la veuve et à l'orphelin. Si vous leur faites du tort, ils crieront vers moi et je les écouterai. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes alors deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Le Dieu de l'Ancien Testament est toujours vengeur, alors que le Christ laissera les hommes sans plus aucune intervention divine à attendre. Ils devront composer entre eux. Avec l'Exode, le peuple libéré par Moïse aura pour devoir de ne jamais oublier ses propres souffrances traversées afin de ne pas les affliger à autrui. On peut y discerner l'anticipation de la formule célèbre de Marx « Les conditions d'existence matérielle déterminent la conscience », même si l'injonction biblique se réfère aussi et davantage à la mémoire. La coupure, pour reprendre le terme althusserien, du christianisme est la suivante. L'injustice doit être corrigée par les hommes eux-mêmes. Les profiteurs, les avides, les collaborateurs des régimes oppresseurs font des victimes. La colère de ces victimes sera la seule légitime. Le pardon concernant les affaires privées. C'est ce Christ politique, répétons-le, qui anime évêques et prêtres engagés dans la lutte des classes.
Voilà comment Philippe Blanchon rend grâce à tout ce courant qui est un courant marxisant. Et il faut dire que maintenant, on n'entend plus guère parler dans l'Église de la théologie de la libération. Il reste cependant des petits groupes qui sont un espoir. Et Althusser ne veut pas perdre l'espoir, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on en est à mon cher poème?
Oui. C'était pas mal la nuit, sous nos tentes nous recevions les chevaux braillés, mais ces nuits d'hiver, c'est août pour eux, moins les cavales. Nous, c'était nuit, c'était janvier de gel. L'avantage du givre, c'est de glacer les larmes, l'acier de longs aigus de cliquetis des yeux, figer les sentiments, seuls les rires comme des chutes. L'énigmatique, Je sens que je le frôle, envoûtement. Je le frôle par envoûtement. Pas du tout pour jouer avec les mots. Jouer de mots, non. Si, peut-être retrouver un langage d'incantation qui soit l'équivalent d'une présence. Décidément, je deviens de plus en plus obscur.
Je ne sais pas si vous l'avez trouvé obscur, mais on a eu du mal. On vous souhaite non pas bonne lecture d'Adussard, car on reconnaît qu'il est difficile à lire. Mais je retiens que j'ai beaucoup appris sur celui dont je connaissais que la coupure épistémologique, mais pour finir, il semble que ce soit ça, ce qu'il a dit et qui a trouvé un écho en Amérique latine qui a été le plus important. Je retrouve aussi la présentation personnelle du jeune Althusser, qui était à la fois très bel homme et très aimable et très doux. Alors que j'imaginais, je voyais quelqu'un qui fracassait le PC avec allégresse, c'est pas du tout le cas. Enfin, dernier point, ce livre nous remet dans l'ambiance de 45 et des années qui ont suivi jusqu'à la terrible année 1980, après laquelle Althusser n'a fait que suivre une carrière de prof de fac. Pour finir, il était caïman à l'école normale, c'est-à-dire professeur titulaire. Et il continue ses études avec et ses oppositions à Marx dans des articles. Et je retiens que c'est au sujet de Lacan. Lacan avait été exclu de la société de psychologie. De psychiatrie, et ça ne l'avait pas empêché de convoquer une conférence, mais il n'était admis à cette conférence que ceux qui étaient invités. Althusser y est allé quand même. Et quelqu'un lui a demandé, étiez-vous convié? Qui vous a convié? Évidemment, il avait dû faire des interventions qui n'allaient pas dans le sens général des invités. Et il a répondu, le Saint-Esprit. et le Saint-Esprit, d'ailleurs, c'est le désir, il a dit. Alors voilà un exemple de cet Althusser quotidien qui est bien plaisant à trouver dans ce livre. Et merci donc à Philippe Beauchamp, qu'on ne connaît pas, mais qui est probablement un des fondateurs de Goyas, il y en a bien aussi. Mais non, je ne trouve pas que ce soit un livre tellement bien écrit. Galère, galère.
A song that comes from Tanzania. Malaika.